Nous allons relire alors la dernière portion du livre de l'Exode au chapitre 30. Livre de l'Exode, chapitre 30, à partir du verset 34. Et l'Éternel dit à Moïse, « Prends des drogues odoriférantes et du stacte et de la coquille odorante et du galbanum, des drogues odoriférantes et de l'encens pur, de tout à poids égal. Et tu en feras un encens composé d'ouvrage de parfumeur, salé, pur, saint. Et tu en pileras très fin, et tu en mettras sur le devant du témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce vous sera une chose très sainte. Et quant à l'encens que tu feras, vous n'en ferez point pour vous selon les mêmes proportions. Il sera pour toi saint, consacré à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le flairer sera retranché de ses peuples. » Donc le mois passé, on avait considéré alors la composition de l'huile de l'onction sainte dans ses différentes proportions et sans doute aussi dans la signification de ses aromates qui le composait, et l'amyre qui parle des souffrances. Et voilà, il y avait aussi du cinnamome, du roseau aromatique, de la casse. Et cela, selon le cycle du sanctuaire, donc le verset 23 et 24, et un hin d'huile d'olive. Et donc c'était l'huile qui nous fait penser bien sûr au Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, bien sûr, qui habitait dans la personne du Seigneur Jésus. Nous rappelons que nous lisons et nous considérons tous ces différents passages en rapport avec une étude que nous menons depuis plusieurs mois concernant les sujets du culte que nous pouvons avoir envers la personne du Seigneur Jésus. Et donc ici, nous commençons maintenant au verset 34 où il s'agit donc de l'encens. Il y avait donc dans le lieu saint un autel d'or sur lequel il fallait faire fumer l'encens continuellement. Il ne pouvait pas y avoir d'interruption. Et cet encens devait donc être préparé par les sacrificateurs. Et donc cet autel, c'est le premier paragraphe du même chapitre, donc chapitre 30 de l'Exode, du verset 1 au verset 10, il est parlé de l'autel pour faire fumer l'encens. Il était fait de bois de sittim, il était plaqué d'or, verset 3, et tu le plaqueras d'or pur, le dessus, ses parois, tout autour et ses cornes. Voilà donc ce qui recevait cet encens dont nous allons parler. Évidemment, dans tout ce qui concerne le tabernacle, nous retrouvons toutes les perfections de la personne du Seigneur Jésus, aussi bien dans les instruments que ici dans la composition de l'encens.
Donc ces choses qui étaient matérielles dans l'Ancien Testament, on parle du tabernacle, on parle de la construction du tabernacle, de l'agencement du tabernacle, sont pour nous des applications spirituelles, comme on vient de le dire. Tout cela nous parle du Seigneur Jésus-Christ, de différents aspects de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et le tabernacle, il est composé de différents matériaux qui nous parlent aussi des caractères, des qualités du Seigneur Jésus, notamment l'or, l'argent, donc la gloire, la rédemption, beaucoup de choses comme ça, des matériaux nobles. Et il y a des couleurs, des choses visuelles aussi. Dans la fabrication du tabernacle, on y retrouve notamment les quatre couleurs, le blanc, le bleu, le pourpre, etc. Et puis, et l'écarlate, qui nous parle aussi du Christ, le bleu, Christ céleste, l'écarlate, le sang, le pourpre, sa royauté, le blanc, sa pureté. On retrouve les quatre évangiles, ce sont des choses qui sont très, très précieuses au cœur de ceux qui sont rachetés aujourd'hui, qui ont reçu l'Esprit et qui ont reçu aussi la pleine révélation de Dieu au travers de toutes les Écritures. Donc il y a des matières, des couleurs, et puis il y a des parfums. Et là, nous sommes arrivés au parfum. Et ça, c'est comme, on pourrait dire, du ressenti. Le travail de l'Esprit, qui ne se voit pas, mais qui opère, et qui opère jusqu'à l'intérieur de notre être. Et on a parlé la fois dernière, donc, de cette odeur de vie. Cette odeur de vie, car le nom de Christ, il nous est dit dans le Nouveau Testament, est un parfum répandu. C'est une odeur de vie pour ceux qui le connaissent et qui l'ont accepté pour sauveur, pour Seigneur et sauveur. Et ici, dans le paragraphe que nous avons lu, il est question de composer. Nous avons cette capacité maintenant que nous avons reçu l'Esprit Saint de composer un parfum qui est agréable à Dieu. En prenant ce qui est de Christ, par exemple à la réunion d'adoration, et en l'exprimant ou simplement en le composant dans notre cœur. Et ce que nous composons à propos de Jésus-Christ et de ses perfections, lorsque nous voyons, nous les mettons ensemble dans notre cœur, malgré nos limitations à nous, et cela fait quelque chose d'agréable à Dieu qui monte vers lui. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est une composition spirituelle, une composition du cœur, quand il a compris quelque chose des gloires de Christ. Alors ici, dans ce verset 34, l'Éternel parle, et quand l'Éternel parle, il faut écouter. Il dit « Prends des drogues odoriférantes, du stack, de la coquille odorante, du galbanum, des drogues odoriférantes et de l'encens pur, tout à poids égal, et tu en feras un encens composé d'ouvrages de parfumeurs, scellés, pur saint. » Donc déjà, Dieu nous demande de prendre. Il nous demande de prendre ce qui est de Christ. Et ce qui est de Christ, pour nous aujourd'hui, nous le trouvons dans les Écritures. Dieu nous a donné les Écritures. Ça, c'est son côté à lui. Il faut maintenant que de notre côté, nous le prenions. Alors, nous avons reçu, par exemple, la vie éternelle. Nous l'avons reçu comme sauveur, Jésus-Christ, notre sauveur. Mais il y a encore beaucoup plus à prendre. Et il y a beaucoup de choses à prendre que Dieu veut nous donner. Et tous ces enseignements des Écritures concernant Jésus-Christ, qui nous montrent combien il est parfait, il faut le prendre. Et il faut en faire quelque chose.
Pour continuer dans cette pensée, que, à travers les paroles que nous pouvons exprimer, ce qu'il y a dans nos cœurs, les chants que l'on peut faire monter dans nos réunions de culte, c'est donc l'expression de ce que le Seigneur Jésus a été sur la terre. Mais ici, sans doute, il y a vraiment... la pensée de la bonne odeur. Et, bon, j'avais sélectionné ici deux passages, mais j'en pense encore un autre. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, il nous est dit, Éphésiens 5, « Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. » Voilà donc ce que le Seigneur Jésus a réalisé. Nous devons être des imitateurs et nous avons donc à le considérer, lui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous, comme offrande, comme sacrifice, mais aussi en parfum de bonne odeur. Je pensais aussi à cette expression de Colossiens 2, où il nous est dit, au verset 9 du deuxième chapitre de l'Épître aux Colossiens, « En lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. » Quand on considère le Seigneur Jésus, peut-être parfois nos pensées ne sont pas assez élevées pour considérer que c'était la déité, c'est ce qu'il y a de plus. C'est un mot qui exprime tout ce que Dieu est dans tout son ensemble. Et toute la personne de Dieu habitait dans la personne du Seigneur Jésus. Il était Dieu lui-même, béni éternellement. Et donc voilà encore une partie de cet encens que nous devons faire monter vers Dieu, parce que c'est ce que nous exprimons du Seigneur envers le Père. Et le Père prend plaisir à entendre justement tout ce qui est révélé dans nos cœurs sur son Fils, sur ce qu'il a été pour lui et ce qu'il a été pour nous. Je reviens aussi à cette remarque que Hervé vient de faire concernant ce verbe « prend des drogues odoriférantes ». Alors c'est une demande que nous faisons monter vers Dieu lui-même, de nous aider à recevoir ces choses, parce que ce n'est pas une prise par la force, en disant, ni par l'intelligence humaine, c'est par le Saint-Esprit qui agit en nous, et nous devons le demander. Alors après, les choses, elles sont là, Hervé l'a dit aussi, on a toute la parole devant nous pour considérer les gloires variées du Seigneur Jésus. Après, il faut aller les prendre, en effet. Il faut aller lire la parole et méditer dans nos cœurs ce que le Seigneur Jésus est pour nous.
C'est en effet uniquement par l'Esprit Saint qui nous a été donné que nous pouvons faire quoi que ce soit ou comprendre quoi que ce soit de juste devant Dieu. Par nos capacités naturelles, humaines, nous allons très vite nous tromper ou y ajouter des éléments qui ne sont pas à leur place devant Dieu. Mais par l'Esprit qui nous a été donné, si nous le laissons agir, il prend de ce qui est à Christ et nous le communique. Et ici, si je ne me trompe, la coquille odorante, par exemple, c'est quand même quelque chose qu'il faut aller chercher au fond de la mer. C'est quelque chose qu'il faut... Il faut aller profondément pour en extraire quelque chose. Et donc, c'est par l'Esprit dont il nous est dit dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint, donc l'Esprit de Dieu, sonde les choses profondes de Dieu. Ce n'est pas par notre esprit humain que nous irons dans les profondeurs de la pensée de Dieu, mais par l'Esprit Saint qui nous a été donné, alors nous pouvons entrer dans ces profondeurs. Bien sûr, le cœur de Dieu est infini, nous n'entrerons jamais à fond, mais par l'Esprit, nous avons déjà les arts de notre héritage et nous comprenons des choses divines par l'Esprit. Et alors cela produit, si nous nous l'approprions, par grâce évidemment, cela produit un parfum, comme un parfum agréable à Dieu, quelque chose qui réjouit le cœur de Dieu en effet, de savoir que tel croyant, tel racheté a compris cette gloire qui appartient à Christ.
Il y a donc cette composition, et le fin du verset 34 au début du verset 35, de tout à poids égal. Alors ce n'est pas la même composition que ce que nous avions vu dans l'huile de l'onction sainte, puisque là il y a un poids qui est donné pour les différents parfums, les différents matériaux, pourrions-nous dire, qui composaient et qui étaient ajoutés à l'huile. Il y avait des poids différents. Ici, c'est de tout à poids égal. Le Seigneur Jésus, dans toutes ses gloires, il atteint la plénitude de cette gloire. Il n'y a pas de différence. Qu'il soit fils de l'homme, fils de Dieu, qu'il soit... Agneau de Dieu pour le sacrifice, et on peut ainsi multiplier sans doute les différentes expressions que nous pouvons utiliser sur le Seigneur Jésus. Elles ont toutes la même valeur parce qu'elles sont parfaites. Et là aussi, on doit être conséquent avec les expressions que l'on emploie. On verra d'ailleurs à la fin de ce paragraphe ce qu'il est dit. et de réserver à la personne du Seigneur Jésus des expressions qui sont contenues dans la parole, de ne pas les utiliser pour d'autres choses, pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit de tout à poids égal.
Christ, dans ses différents aspects, est infini dans chacun d'entre eux. Donc, comme on l'a entendu, il est, au même titre qu'il est fils de Dieu, il est agneau de Dieu, il est bon berger, etc., en même mesure, puisque de la part de Dieu, parce qu'il est divin. Alors on va prendre maintenant de l'autre côté. De notre côté, il ne faudrait pas que nous donnions une mesure plus importante à un aspect plutôt qu'à l'autre. Il ne faudrait pas que je décide que je préfère cet aspect-là et que les autres, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Non, il faut que je compose quelque chose qui soit équilibré devant Dieu. Et donc, je ne peux pas dire cet aspect-là du Seigneur Jésus ne m'intéresse pas. Je préfère l'autre aspect. Je vous donne un exemple très pratique. Je veux bien qu'il soit mon sauveur, parce que grâce à ça, je vais au ciel dans l'éternité, et je lui suis reconnaissant parce qu'il m'a sauvé, mais comme Seigneur, lui donner l'autorité sur ma vie ici sur la terre, c'est plus difficile. Alors là, on fait deux poids, deux mesures. Non, il est sauveur, il est Seigneur, dans la même mesure. Est-ce que je le remercie? Est-ce qu'il y a vraiment un parfum de remerciement, de gratitude qui monte de mon cœur parce qu'il est mon Seigneur? Ça devrait être le cas. Parce que je suis sauvé pour l'éternité, mais je suis sauvé de la terre aussi. Si je l'accepte comme Seigneur, comme celui qui me dirige sur la terre, il me fait éviter beaucoup de problèmes qui sont liés à la terre. Peut-être que parfois, je n'ai pas tellement envie qu'il soit celui qui me dirige, et pourtant je devrais l'en remercier, parce que s'il me dirige, il me dirigera dans des voies de justice, loin du péché, dans la sainteté, et donc, si c'est dans la sainteté, dans la communion et dans la joie de la communion avec Dieu. On remarquera également dans les expressions qui est donnée au verset 35, « Tu en feras un encens composé d'ouvrages de parfumeurs, salé, pur, saint. » Donc il est salé. Cette composition, elle est salée. Alors le sel, déjà, ça donne du goût. Ce n'est pas quelque chose de fade, de maussade. C'est quelque chose qui a du goût. C'est quelque chose qui rend aussi notre vie utile et intéressante. Ce n'est pas une vie où on s'ennuie quand on s'occupe des choses du Seigneur dans son cœur. Et puis salé, ça veut dire aussi qu'on n'y laisse pas y en, on ne laisse pas y entrer la corruption. Le sel, dans tout ce qui était pour Dieu dans l'Ancien Testament, il y avait du sel pour le tabernacle, parce qu'on ne peut pas laisser entrer ce qui vient de la chair, ce qui vient du péché, ce qui vient de la pensée humaine. Donc il faut composer en mettant du sel, en s'assurant que ce ne sera pas contaminé par les éléments du monde et par les pensées philosophiques ou psychologiques ou quoi que ce soit qui sont un produit du cœur naturel de l'homme et non pas un produit de l'Esprit Saint qui vient de Dieu.
Et à ce sujet, je lirai un simple passage des Écritures où l'apôtre Paul fait une application pratique de cette bonne odeur du Christ, mais liée à notre témoignage en tant que chrétien. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Verset 15. car nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés et à l'égard de ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort pour la mort, et aux autres, une odeur de vie pour la vie.
Et donc dans Exode 30, il est parlé donc de cet encens composé, un ouvrage, donc il y a un travail, donc un travail intérieur dans notre cœur en ce qui nous concerne, un travail de l'Esprit Saint. Et tu empileras très fin. Voilà encore quelque chose qu'il est bon de faire dans nos activités spirituelles. C'est de piler très fin la matière. Alors là, il s'agit de matière physique pour faire un parfum, mais en ce qui nous concerne, notre matière à nous, ce sont les Écritures. C'est notre matière. Le texte biblique. Et puis, il est bon, pas seulement de le lire, mais aussi de réfléchir dans la dépendance du Seigneur, en disant, Seigneur, montre-moi, fais-moi comprendre, pas seulement ce qui est évident à comprendre à la première lecture, mais ce qui est plus profond. Montre-moi aussi avec quel autre passage des Écritures je peux faire une correspondance pour mieux comprendre, pour affiner la pensée, pour affiner la compréhension, la connaissance du Seigneur Jésus, parce que je le vois dans tel épisode des Évangiles faire ceci, et puis je le vois dans un autre passage faire cela. Comment je peux, parfois je peux même croire qu'il y a une contradiction, mais si je demande au Seigneur, si je demande à Dieu de me diriger par l'Esprit, alors la pensée va s'affiner et nous allons comprendre mieux. Et plus c'est fin, plus le parfum est également fin. Et comme on l'a lu dans ce passage des Corinthiens, la bonne odeur de Christ. Nous sommes la bonne odeur de Christ pour Dieu. Parce que si nous contemplons ses gloires, nous serons transformés. Il y a cet autre passage aussi dans les Corinthiens. Contemplant à face découverte les gloires du Seigneur, nous sommes transformés en son image par l'Esprit.
Alors il peut parfois y avoir des difficultés à bien comprendre chaque expression, puisqu'il fallait faire un encens composé, mais salé, pur, saint. Ce qui est pur, c'est ce qui n'est pas mélangé. Mais malgré tout, c'est quand même un encens composé. Donc il faut prendre les bonnes choses qui ne sont pas mélangées avec celles qui ne conviennent pas. Cela veut dire que nous n'avons pas à apporter ce que nous sommes, de nature, mais uniquement ce que le Seigneur Jésus a été, lui qui était Dieu sur la terre. Salé, on a dit, donc ça évite la corruption. Pur, c'est sans mélange. Et saint, mais c'est séparé du mal. Donc c'est trois aspects, pourrions-nous dire, de ce que le Seigneur Jésus a été sur la terre aussi. Il a pu répondre à l'adversaire dans cette tentation, en commençant son ministère, en répondant par la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir répondre aussi à l'adversaire. Mais il nous est dit aussi qu'il était séparé des pécheurs. Donc, bien qu'au milieu des pécheurs, il n'entrait pas dans toutes ces considérations que l'homme pouvait avoir, et on le voit vis-à-vis des responsables du peuple qui essayaient de trouver quelque chose dans la vie du Seigneur Jésus pour le condamner. Et ils n'ont rien trouvé. Ce sont de faux témoins qu'ils ont pu établir leur jugement. Donc il était salé, pur et saint. Mais c'était malgré tout un encens composé d'ouvrage de parfumeur. On l'a déjà vu dans l'huile aussi, c'était au verset 25, « Tu en feras une huile pour l'onction sainte, une préparation composée d'ouvrage de parfumeur. » Alors nous sommes ces parfumeurs et nous devons apporter justement cette composition dans le sens. On ne dit pas toujours les mêmes choses dans chaque réunion de culte. Certains aspects peuvent être relevés dans un culte, par exemple le Seigneur dans son abaissement, mais dans un autre culte, ce sera les souffrances du Seigneur Jésus qui seront plutôt exprimées. Dans encore un autre culte, on pourra parler de toute sa gloire, de ce qu'il était dès avant la fondation du monde. Il y a tant de sujets que nous pouvons apporter de la personne du Seigneur Jésus, un encens composé. Et ça parle aussi, cet encens composé, de ce que chacun apporte quelque chose. On l'avait déjà relevé le mois dernier. Tant les frères que les sœurs, même si les sœurs restent dans le silence, dans l'expression orale, pourrions-nous dire, au milieu du culte, mais il y a d'autres choses. Nous avons tous des pensées pendant le culte. Nous pensons tous, chacun, à la personne du Seigneur Jésus. Mais nous chantons aussi ensemble ces chants de louange et d'adoration. Et lorsque l'adoration et la louange s'expriment par un frère, il y a aussi l'amen. L'amen est important aussi, parce que nous avons à exprimer tous ensemble, pourrions-nous dire, cette vérité, que votre oui soit oui et amen. Et donc il y a une importance aussi à exprimer cette qu'il soit fait ainsi à la fin d'une adoration ou d'une louange exprimée par un frère. Parce que ça montre que nous sommes d'un seul cœur vis-à-vis de la personne du Seigneur Jésus.
Et au verset 36, Hervé en a fait le commentaire. « Tu en pulleras très fin et tu en mettras sur le devant du témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce vous sera une chose très sainte. » Il y a cette rencontre-là. Et on a parlé, je crois, au début du chapitre de l'autel de parfum. Et celui qui vient rencontrer Dieu, il y avait cette odeur. Et je pensais simplement à ce passage des Cantiques, le premier chapitre, « Ton nom est un parfum répandu. » On vient rencontrer le Seigneur, mais il y a cette odeur déjà qui rappelle le nom du Seigneur, nom précieux, et ce nom est en lui-même un parfum répandu.
Évidemment, il est parlé ici dans cette rencontre de Moïse, qui lui-même devait entrer. Alors, il y avait deux lieux, donc le lieu saint où se trouvait l'autel d'or sur lequel fumait l'encens continuellement. Mais ici, Moïse devait venir avec de l'encens et il franchissait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Parce qu'il devait en déposer, il devait en mettre sur le devant du témoignage dans la tente d'assignation. Le témoignage, c'était dans le lieu très saint. C'était l'arche du témoignage. Et là, il devait venir, comme il devait répandre le sang aussi, il devait aussi déposer l'encens, venir placer cet encens sur le devant du témoignage. Il y avait le sang sur le propitiatoire et devant, et puis il y avait cet encens qui devait être mis. Mais c'est beau de voir l'expression « Je me rencontrerai avec toi ». Alors ça parle à chacun d'entre nous. Ça nous dit à chacun, personnellement, eh bien, il faut venir rencontrer Dieu lui-même, le Seigneur Jésus. Nous chantons dans beaucoup d'expressions dans nos cantiques, quand lorsque nous venons pour une réunion de culte. Nous sommes sous le regard de Dieu, sous le regard du Père. Mais nous entourons la personne du Seigneur Jésus. Il est présent au milieu de nous. On connaît bien ces passages de Jean 20. Il se tint là, au milieu d'eux, dans la chambre haute. Et voilà, je me rencontrerai avec toi. Alors, bien sûr, on est heureux de se voir ensemble lorsqu'on est en réunion d'assemblée. Mais il ne faut jamais oublier que c'est d'abord la personne du Seigneur Jésus qui doit avoir cette première place. C'est cela qui doit réjouir nos cœurs, c'est sa présence. Je me rencontrerai avec toi.
Nous pouvons peut-être aussi faire une application pratique, en dehors même des réunions d'assemblée, comme pour l'adoration, où on voit que être en contact avec le Seigneur, ça transmet le parfum. Donc le Seigneur, on va dire, aimé, il est la source de ce parfum. Et puis, si nous sommes dans sa présence, nous allons aussi transmettre quelque chose de cela. Et on voit dans le Nouveau Testament, dans les Actes, qu'on reconnaissait les disciples pour avoir été avec Jésus. Ils avaient été dans sa présence et cela a changé leur façon d'être, leur façon de se comporter et de vivre. C'était des gens qui n'avaient pas été à l'école. Ils étaient illettrés, il nous est dit. Ils ne savaient pas lire ou écrire, mais on les reconnaissait parce qu'ils avaient été avec Jésus. Et ils parlaient de grâce, ils parlaient des choses de Dieu. Ils parlaient de la part de Dieu parce qu'ils connaissaient le Seigneur Jésus. Et pourquoi est-ce qu'ils le connaissaient ? Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, une connaissance académique, puisque simplement parce qu'ils ont été dans la communion avec le Seigneur. Et donc, on voit aussi que les disciples, tout au long de leur vie, quand ils étaient avec le Seigneur, ne comprenaient pas ce que le Seigneur leur disait. Il a fallu attendre qu'ils obtiennent le Saint-Esprit en eux pour comprendre exactement, avec justesse, avec exactitude et on va dire finement, ce que le Seigneur était et ce qu'il leur avait dit. Et alors ils sortent, ils partent dans les rues, ils partent dans les villes, et ils exportent le parfum du nom de Jésus. Et comme on l'a lu tout à l'heure, comme Orlan l'a lu tout à l'heure, le parfum de sa connaissance. C'est le parfum de la connaissance de Christ. Il s'agit de connaître une personne, ce n'est pas la question de connaître une religion ou de connaître la liturgie ou de connaître beaucoup de choses intellectuelles, il s'agit de connaître Jésus-Christ. Alors nous sommes le parfum de Christ, le parfum de sa connaissance. Et au verset 37, « Et quant à l'encens que tu feras, vous n'en ferez point pour vous selon les mêmes proportions. Il sera pour toi saint, consacré à l'Éternel. » Il n'est donc pas question de prendre ce qui appartient à Christ et de se l'attribuer à soi. La gloire, elle est pour Christ. On ne peut pas se glorifier de connaître ces choses-là. On ne peut pas utiliser la connaissance de Christ pour se mettre soi-même en évidence. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout acceptable devant Dieu. C'est une chose consacrée à l'Éternel.
Je pense à ce qui a été devant nous ce mercredi, dans le dernier verset du chapitre 34 d'Ézéchiel. Et c'était pour remettre bien sûr le peuple à sa place, tel qu'il aurait toujours dû être. Il nous est dit, Ézéchiel 34, verset 31, « Et vous, mon troupeau, le troupeau de ma pâture, vous êtes des hommes. » Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas Dieu. Et donc ce parfum, cette louange, cette adoration, ces expressions que nous employons, elles ne sont vraies que dans la personne de Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus, tant pour le Père que pour le Fils. Et voilà, on ne peut pas se les approprier. Et encore moins, bien sûr, comme Hervé le dit, de pouvoir l'exprimer quant à soi-même, à d'autres personnes. C'est peut-être atteindre vraiment l'orgueil de l'homme de faire une chose pareille. Mais on voit que cette pensée traverse les Écritures. Et combien de fois aussi dans le Nouveau Testament, même les apôtres, même les serviteurs qui ont servi fidèlement, ont toujours remis la personne du Seigneur Jésus devant eux. L'apôtre Paul lui-même se plaît même à relever les choses qu'on disait contre lui, qu'il avait une faible apparence, qu'il n'avait pas une éloquence remarquable. Il y a plusieurs choses qui sont dites de lui, et il se plaît à les dire en disant « Mais voilà, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personne qui est importante, c'est la personne du Seigneur Jésus. » Et donc, vous n'en ferez point pour vous selon les mêmes proportions.
La tentation de s'élever en tant qu'homme, elle est très forte, elle est très grande. On la trouve déjà dans le jardin d'Éden, où le serpent dit à Ève, « Vous serez comme Dieu. » Et voilà ce qu'il y a dans notre cœur naturel, dans le vieil homme. C'est de s'élever, et quand je m'élève, j'abaisse Christ. Je vais prendre la place qui lui revient. Malheureusement, il faut toujours faire attention, ça nous guette tous, et individuellement et en assemblée. Il ne faudrait pas croire que nous allons trouver le droit chemin et les hauteurs spirituelles par nous-mêmes. Il faut toujours revenir à Christ. Puis dans la chrétienté, parfois, l'homme s'élève, et là où l'homme s'élève, on n'entend plus parler de Christ. Et ça, c'est dommage. Donc c'est un danger qui est permanent. C'est de s'attribuer, de s'élever soi-même en tant qu'homme et de penser que nous valons quelque chose par nous-mêmes. Alors nous avons une très grande valeur aux yeux de Dieu, mais en tant que graciés, en tant qu'hommes pécheurs qui ont été rachetés. Mais Christ a la prééminence, la suprématie en toutes choses.
Alors ce verset 38 qui conclut ce paragraphe, il était déjà présent au verset 33. On va lire le verset 33. « Quiconque en composera de semblables et en mettra sur un étranger sera retranché de ses peuples. » On mettra sur un étranger à la note, il nous est dit, c'est-à-dire étranger à la sacrificature. C'est quand même un point important. Et ici, de même, verset 38, quiconque en fera de semblable pour le flairer sera retranché de ses peuples. Évidemment, nous sommes dans ce temps où la loi sera présente au milieu du peuple. Et on sait combien la grâce de Dieu a pu intervenir, même dans cette période de la loi. On l'a considéré à travers la constitution du peuple et le voyage jusqu'à l'entrée en Canaan, et que de grâce encore pendant la conquête du pays, et que de grâce encore dans l'histoire du peuple, jusqu'au moment où la patience de Dieu a été à son comble et que les jugements sont tombés sur le peuple. Mais on voit que voilà, cette pensée aussi est là. Quiconque en fera de semblable pour le flairer, est-il dit ici. Donc simplement, fabriquer quelque chose, prendre de ce qui est à Dieu, pour en goûter pour soi-même. Voilà, ça veut dire que l'encens ne va plus monter vers Dieu, vers le Seigneur Jésus, il va rester individuellement pour nous. Alors sans doute on doit rechercher toutes ces perfections du Seigneur Jésus, on doit les connaître, mais c'est dans le but principalement de pouvoir les présenter soit dans un culte individuel, soit dans un culte d'assemblée ou un culte de famille, de pouvoir exprimer quelque chose à la personne du Seigneur Jésus.
Ici, au verset 38, Dieu montre clairement sa pensée. Alors évidemment, comme on l'a dit, c'est sous la loi, mais on voit la pensée de Dieu, elle est claire, elle est nette. On pourrait paraphraser ça en disant « Quiconque prend les attributs de Christ pour s'encenser lui-même n'a pas de place devant moi. » Donc comment on peut faire ça? Comment est-ce possible de prendre les attributs de Christ pour s'encenser soi-même? Mais par exemple, en faisant des belles prières avec des belles expressions bibliques qui parlent de Christ, mais en fait, pour se mettre soi-même en évidence, pour montrer qu'on a mieux compris que les autres, par exemple. Quand c'est ça le motif de la prière. On peut écrire des livres avec des grandes expressions tirées de la parole pour montrer combien on est capable, pour montrer aux autres. Non. Si c'est pas de bonne c'est pas une odeur agréable à Dieu. Dieu dit, si c'est ça le motif, ça n'a pas de place devant moi. Le seul motif et la seule raison pour laquelle nous ferions quoi que ce soit, c'est l'amour pour Christ. C'est pour le mettre lui en évidence.
La mise en pratique de cette expression se trouve dans Lévitique 10. Lévitique chapitre 10. Et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir et y mirent du feu et placèrent de l'encens dessus et présentèrent devant l'Éternel un feu étranger. Voilà ce que l'homme peut faire. Ils étaient les fils d'Aaron. Ils avaient une grande responsabilité puisque la sacrificature à ce moment-là se transmettait de père en fils. C'était la famille d'Aaron qui possédait cette position d'être grand sacrificateur. Et ici, deux de ses fils, les deux aînés, eh bien, vont apporter un feu étranger. Et en continuant, ce qu'il ne leur avait pas commandé, et le feu sortit de devant l'Éternel et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Celui qui en fera de semblable pour le flairer sera retranché de ses peuples. C'est encore la pensée de Dieu. Alors pour nous, en pratique, ça veut dire que si nous faisons une telle chose, nous rompons, nous cassons la relation avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur Jésus s'arrête si nous nous élevons. Je veux dire, c'est facile à comprendre, mais c'est une attention que nous devons avoir parce que c'est écrit et on voit combien ça a pu être réalisé pour les fils d'Israël. Et sans doute, nous le savons, hein, dans les Actes des Apôtres aussi, il y a eu de telles personnes qui ont essayé d'acheter hein, le fait de pouvoir délivrer des âmes. Hein, ils voulaient acheter le Saint-Esprit. Eh bien, cela n'est pas permis. Et dans la fin de ce paragraphe des Lévitique 10, au verset 7, il est parlé alors au verset 6 aux deux autres fils d'Aaron, Et Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar, ses fils. Et au verset 7, « Ne sortez pas de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Donc ce qu'on a vu dans le paragraphe précédent d'Exode 30, ils avaient été oints d'huile, de l'huile de l'onction. Et donc dans cette affaire, eh bien, ils ne pouvaient plus sortir du parvis. Ils devaient rentrer là, ils devaient rester là, parce que ça aurait été un acte de désapprobation de ce que l'Éternel venait de réaliser parmi le peuple. Et donc on voit combien ces choses sont solennelles. On a peut-être tendance aujourd'hui à peut-être moins être précis, d'être moins tenu par les enseignements de la parole. Et il peut y avoir parfois des interprétations. Et nous devons nous tenir devant le Seigneur pour bien comprendre et donner une valeur bien particulière à ces réunions, à ces moments en tout cas où nous nous trouvons devant le Seigneur, soit, nous le répétons, individuellement, en famille ou en assemblée.